Radio Prague, les informations. Bonjour, le gouvernement tchèque entend organiser un référendum sur le pacte budgétaire européen. Aide à la zone euro toujours, selon le Premier ministre, l'éventuel prêt tchèque sera nettement inférieur aux 3,5 milliards d'euros demandés. Et puis en sport en handball, bien que battu par la Suède, les Tchèques conservent leur chance de qualification au championnat d'Europe. La coalition gouvernementale s'est entendue sur le fait qu'un référendum devrait être organisé dans le pays afin de déterminer si la République tchèque signera ou non le pacte budgétaire européen, nouveau traité européen qui doit aider la zone euro à sortir de la crise de la dette. Ce référendum serait organisé si le rattachement de la République tchèque au pacte d'union fiscale devait entraîner un transfert de compétences vers Bruxelles. Toutefois, il est également possible que la question relative au pacte budgétaire européen ne soit posée que lors du référendum qui serait organisé pour déterminer si la République tchèque doit intégrer ou non la zone euro. Si ce deuxième cas de figure devait se produire, le pacte budgétaire européen pourrait être ratifié dans un premier temps par le Parlement. Par ailleurs, le gouvernement a fait savoir qu'il entendait encore faire clarifier certains passages du traité avant de se prononcer. Par ailleurs, si le gouvernement tchèque décide d'apporter sa contribution au renflouement du Fonds monétaire international afin que celui-ci puisse aider la zone euro à sortir de la crise, la somme allouée serait très nettement inférieure aux 3,5 milliards d'euros demandés par Bruxelles. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le Premier ministre Peter Nečas en précisant que le gouvernement n'avait encore pris aucune décision sur ce prêt éventuel. Le dossier sera de nouveau débattu la semaine prochaine. Le chef du gouvernement a indiqué que l'opinion qui prévalait au sein de la coalition et que l'octroi d'un prêt d'un montant aussi élevé était exclu. Dans la matinée de mercredi, le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, a lui démenti l'information publiée par le quotidien Mladá Fronta Dnes selon laquelle le gouvernement aurait décidé d'accorder un prêt de 2 milliards d'euros. Politique toujours, le député Oldřich Vlasák a été élu ce mercredi vice-président du Parlement européen. Oldřich Vlasák, qui représente le groupe des conservateurs et réformateurs européens, sera un des 14 vice-présidents de l'organe parlementaire de l'Union européenne. Après le social-démocrate Libor Rauček, le conservateur qui n'était plus candidat, la République tchèque possédera donc de nouveau un représentant au Parlement européen jusqu'à la fin du premier semestre 2014. Le constructeur automobile Škoda Auto, filiale du groupe Volkswagen, doit rappeler environ 12 700 de ses véhicules diesel, et ce en raison de possibles problèmes au niveau du circuit d'injection, composant essentiel du moteur. Près de 800 voitures ont des propriétaires tchèques. L'information a été annoncée ce mercredi par l'attaché de presse de Škoda, qui a précisé qu'il s'agissait d'une mesure de précaution. Les contrôles concernant les modèles Octavia, Superb et Yeti, sortis des usines de Mladá Boleslav entre 2009 et 2012, et équipés d'un moteur de 2 litres. Ces mêmes contrôles concerneront plus généralement quelques 300 000 véhicules Volkswagen, Škoda, Audi et Seat dans le monde. Culture, c'est ce mercredi soir que doit être lancée la 7e édition du Festival des courts-métrages qui se déroule à Prague jusqu'au 22 janvier. Le festival est organisé par l'équipe du Festival international du film de Carlo Vivari. Une vingtaine de films issus d'une quinzaine de pays seront présentés dans le cadre de la compétition internationale. Une autre section projettera une sélection de courts-métrages hors compétition. On passe au sport. L'équipe de République tchèque de handball a été battue par la Suède 33 à 29 mardi soir à Niš en Serbie à l'occasion de son deuxième match de poule, comptant pour le premier tour du championnat d'Europe. Dimanche, les Tchèques avaient battu l'Allemagne pour leur entrée en matière. Après cette défaite contre la Suède, quatrième du dernier championnat du monde, la République tchèque devra battre la Macédoine jeudi lors de son troisième et dernier match de poule pour être assurée de se qualifier pour les huitièmes de finale. On termine avec un mot de météo. C'est un temps très nuageux qui régnera sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Dobravka. Des averses sont attendues un peu partout, ainsi que des chutes de neige, essentiellement dans le nord du pays, à partir de 500 mètres d'altitude. Toujours supérieures aux normales saisonnières, les températures maximales varient quant à elles entre 2 et 6 degrés. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Tout de suite, retrouvez Magdalena Rozinkova pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bienvenue sur Radio Prague et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. L'affaire de la privatisation douteuse de la société minière de Most fait à nouveau la une des médias tchèques. Dans ce contexte, le parti Affaires Publiques propose de prolonger la prescription des crimes de corruption avérés dans certaines des privatisations des années 1990. Nous en parlerons dans cette émission. Une école élémentaire de la ville de Poděbrady porte à partir de ce mercredi le nom de Václav Havel. Pourquoi cette ville de Bohême centrale a-t-elle décidé de rendre hommage à l'ancien président? Nous vous le dirons dans quelques instants. Enfin, dans notre rubrique historique aujourd'hui, la suite de l'entretien réalisé avec l'historien slovaque Michal Kšiňan sur le héros national tchécoslovaque Milan Rastislav Štefánik. Très bonne écoute à toutes et à tous. La vice-première ministre Karolína Pík a annoncé vouloir rassembler les matériaux nécessaires à la demande de prolongation de la prescription au-delà de 20 ans des crimes de corruption soupçonnés dans certaines des privatisations réalisées durant les années 1990. Elle a assuré que cette prolongation devrait permettre d'éviter que de nombreuses affaires de corruption du passé échappent à des enquêtes judiciaires. Par ailleurs, depuis le début du mois de janvier, le gouvernement planche sur le dossier de la sulfureuse privatisation de la compagnie du charbon de Most. Les détails avec Paul Bauer.
On se souvient qu'en octobre dernier, l'actuel ministre des Finances Miroslav Kalousek avait déclaré que la République tchèque ne demanderait pas les milliards de couronnes gelées par les autorités suisses à la suite de la procédure judiciaire sur le blanchiment d'argent lié à la privatisation de la société minière de Most à la fin des années 1990 et au début des années 2000. À la suite de la Suisse, la République tchèque avait à son tour mené une enquête, mais les autorités ont finalement décidé en 2008 de classer sans suite l'affaire. En outre, bien que l'État soit resté copropriétaire de la société minière, le ministère des Finances avait déclaré qu'il ne se sentait pas lésé. Contacté plusieurs fois au cours de l'année 2011 par le parquet suisse, le ministère des Finances dirigé par Miroslav Kalousek avait manqué la date butoir pour confirmer la participation tchèque à la procédure judiciaire en cours. Pourtant, depuis le début de la semaine, le dossier de la société minière de Most est revenu à l'ordre du jour et est devenu l'une des affaires centrales que le gouvernement entend gérer en ce début d'année. Plus que la lumière que la procédure judiciaire pourrait apporter sur l'affaire vieille de 10 ans, c'est le déblocage des 12 milliards de couronnes gelées en Suisse qui motive aujourd'hui les autorités tchèques. Alors que la croissance du pays a été revue à la baisse et que les recettes de l'État s'amoindrissent, l'afflux de l'argent contracté dans cette affaire de corruption est redevenu une priorité gouvernementale. Toutefois, la lenteur avec laquelle les autorités tchèques concernées ont répondu à la relance suisse d'être associées aux poursuites judiciaires risque bien de compromettre le retour de l'argent bloqué. Alors que la police anticorruption tchèque a lancé une enquête afin de faire la lumière sur l'absence de réaction de Prague dans ce dossier, la vice-première ministre Karolína Pík du parti Affaires Publiques s'interroge sur les moyens de résoudre la situation.
Dans un premier temps, nous devons faire le maximum afin de pouvoir être associés à la poursuite judiciaire. La question est de savoir dans quelle mesure cela est possible. Selon les informations dont je dispose des médias, les autorités suisses ont refusé d'annuler la date limite afin de nous associer comme partie lésée, ce qui aurait été le plus simple. Désormais, nous n'avons qu'une seule possibilité de rechange, qui est celle de déposer une plainte en tant que partie civile, ce qui sera plus compliqué et plus cher.
Le retour sur le déblocage des quelques 12 milliards de couronnes et les interrogations portant sur l'inertie tchèque à répondre aux demandes de la Suisse interviennent quelques jours après que la vice-première ministre a proposé de prolonger la prescription des crimes de corruption avérés dans certaines des privatisations des années 1990. Selon le politiste de la Faculté des sciences sociales de l'Université Charles, Michel Perotino, cette annonce comporte un volet politique. Il s'agit en effet d'un message destiné aux membres de la classe dirigeante et d'un moyen de renforcer la légitimité du parti Affaires Publiques, dont la présence est mise à mal au sein de la coalition gouvernementale depuis plusieurs semaines. Michel Perotino s'explique sur ce message du parti Affaires Publiques.
Il essaie depuis le début en fait, de se positionner en défenseur de la lutte contre la corruption. Affaires Publiques, enfin, Vétier Vagina, il n'y a pas grand-chose d'autre en fait, hein, dans leur programme qui reste aujourd'hui. Comme fer de lance de leur activité ou de leur politique, donc ils sont obligés en fait d'être le plus radical possible, ce qui permet en fait encore une fois indirectement de les positionner contre tous ceux qui étaient dans l'establishment dans les années 90 ou dans au début des années 2000. Directement, c'est HSSD, indirectement, c'est aussi l'ODS.
Une école élémentaire de la ville de Poděbrady porte à partir de ce mercredi le nom du président Václav Havel qui nous a quittés il y a tout juste un mois. La cérémonie d'inauguration de l'inscription Škola Václava Havla, école Václav Havel, sur la façade de cet établissement a rassemblé dans la matinée de ce mercredi plusieurs centaines de personnes. C'est un hommage que la ville de Poděbrady rend au président dramaturge qui fréquentait dans sa jeunesse l'une de ces écoles, Václav Richter.
Le directeur de l'école Vlastimil Špinka explique pourquoi la ville de Poděbrady a décidé de rendre cet hommage à l'ancien président.
L'idée est née spontanément lors d'une réunion du conseil municipal le 21 décembre dernier, parce que Václav Havel avait vécu dans notre ville. Il a fréquenté le collège du roi Georges entre 1947 et 1950. En 1950, il a été expulsé de cette école pour des raisons politiques. En 1990, la municipalité lui a accordé la citoyenneté d'honneur de la ville. D'ailleurs, Václav Havel visitait fréquemment Poděbrady. C'était donc une idée spontanée reflétant les liens entre le président Havel et notre ville.
Parmi les camarades de classe de Václav Havel, il y avait, à cette époque-là, le futur réalisateur de cinéma Miloš Forman ou le président actuel du comité olympique tchèque Milan Jirásek. L'amitié que Václav Havel et Miloš Forman ont nouée à cette époque n'allait plus se démentir. D'ailleurs, c'est en collaboration avec Miloš Forman que l'école prépare un projet médiatique sur lequel elle refuse d'en dire davantage, mais qui devrait être réalisé cet été. Un autre ancien élève du collège du roi Georges, Jiří Mareček, garde un vif souvenir de la période où il partageait la chambre avec Václav Havel.
Il était très appliqué, très travailleur, il n'arrêtait pas d'étudier, il n'aimait surtout pas beaucoup bouger. C'était un garçon posé, un peu dodu, très poli et très serviable.
Et Jiří Mareček se souvient que certains camarades abusaient parfois des traits de caractère de petit Václav et l'envoyaient, par exemple, chercher de l'eau minérale et du charbon. Il n'est pas facile de donner un nom célèbre à une école, car il faut remplir pour cela toute une série de formalités. Le directeur Vlastimil Špinka répertorie toutes les démarches nécessaires. Tout d'abord, il fallait demander une autorisation au ministère de l'Éducation.
Pour obtenir une telle autorisation, il faut poser la demande de l'école avec l'approbation de son fondateur, mais aussi avec celle de l'Office de l'inspection scolaire et de la section scolaire de l'Office régional d'administration. Nous avons aussi demandé une autorisation à Madame Dagmar Avlova, et sa lettre par laquelle elle nous l'a accordée m'a beaucoup touché. Nous avons aussi réussi à remplir toute cette série de formalités dans une semaine, ce qui est un délai extrêmement court vu la situation administrative de la République tchèque. J'aimerais remercier donc tous ceux qui nous ont aidés.
C'est avec plaisir que j'apprends que vous désirez donner le nom de mon mari à votre école élémentaire de Poděbrady et je vous accorde bien volontiers mon approbation, lit-on dans la lettre de Dagmar Havlova. Le nom de Václav Havel pourrait être donné aussi à d'autres établissements tchèques. Le projet de rebaptiser l'aéroport de Prague et de l'appeler Václav Havel International Airport est largement soutenu par la société tchèque. Une pétition dans ce sens a déjà été signée par plus de 80 000 personnes.
Dans chapitre de l'histoire aujourd'hui, suite de l'entretien réalisé avec l'historien slovaque Michal Kšiňan sur le personnage historique de Milan Rastislav Štefánik. Dans la première partie de l'entretien, nous avons abordé les éléments principaux de sa vie et de son engagement pour la cause tchécoslovaque qui a émergé au cours du premier conflit mondial. Sa mort tragique dans un accident d'avion près de Bratislava, quelques mois après la naissance de la première république tchécoslovaque, signe aussi le début de la vie posthume de Štefánik, qui est très tôt érigé en héros national. C'est l'histoire de cette seconde vie que Paul Bauer vous propose d'écouter.
Chapitre de l'histoire.
Štefánik devient vraiment connu et devient un personnage important après sa mort. Comment est-ce que vous expliquez cette récupération de Štefánik dans l'après-guerre ?
À mon avis, il y a plusieurs choses qui sont très importantes dans la popularité de Štefánik. En fait, tout d'abord, c'est que dans l'histoire slovaque, il n'y a pas beaucoup de héros qui avaient du succès. C'est Štefánik qui a mis fin à l'asservissement de la nation slovaque dans le royaume d'Hongrie. Donc, c'est à mon avis un facteur. L'autre facteur, c'est qu'il est mort tragiquement, et il avait 39 ans. À mon avis, cette mort est perçue comme quelque chose de romantique. Donc ça contribue, à mon avis, aussi à sa popularité.
Principalement en Slovaquie ou dans toute la Nouvelle République?
Bon, je crois que dans la toute Nouvelle République, parce que c'est un fait qui est très touchant dans la vie de Štefánik. Parce qu'il est... Il est mort quand il était au sommet de sa carrière, si on peut le dire ainsi. Puis c'est le fait que Štefánik est un personnage qui est un peu plastique. Tout le monde en Slovaquie se réclame de l'héritage de Štefánik. Si vous prenez l'extrême droite, il se présente comme des gens qui continuent dans la lutte de Štefánik. Mais si vous prenez des libéraux ou des socialistes, Štefánik est accepté par tout le monde, sauf sous le régime communisme, il n'était pas bien perçu. Mais donc il est accepté par la société entière. Et à mon avis, cela relève du fait que dans l'entre-deux-guerres, les deux forces principales politiques en Slovaquie, donc ce sont des populistes et des agrariens, les deux courants ont accepté Štefánik, et donc ainsi il est acceptable pour toute la société.
On voit en vous écoutant que l'histoire du succès de ce personnage évolue au cours du temps. Vous avez parlé de la période communiste, vous avez dit qu'il n'était pas un personnage qui était apprécié dans l'histoire, ou que c'était un personnage qui a été marginalisé dans l'histoire de la Tchécoslovaquie telle qu'elle s'est écrite durant la période communiste. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène?
Bon, c'est les actions de Masaryk, de Beneš et de Štefánik n'entraient pas bien dans la logique de l'explication de l'histoire par les communistes. Pour eux, c'était plutôt des forces dans la société qui décidait le cours de l'histoire et pas les personnalités. De plus, ils créent Štefánik, Beneš et Masaryk, ils ont créé une république bourgeoise. De plus, Štefánik, quand il était avec les légions tchécoslovaques en Russie, il était très très anti-bolchevique. Mais à mon avis, je crois qu'il y a aussi une autre raison, parce que autour de Štefánik pouvaient se créer des centres de résistance contre le régime. Donc c'était quelqu'un qui était très populaire, très apprécié dans la société. Donc je crois que les
parmi les dissidents notamment, ou des opposants au régime socialiste.
Partout. En fait, Štefánik était accepté par la société entière. Et en fait, à mon avis, il pouvait être autour de lui, pouvait se créer des cercles des opposants contre le régime. Parce que, par exemple, si vous prenez les célébrations à Bradlo, qui se font le 4 mai, donc à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Štefánik, cette célébration ou cette festivité, en 1968, il y avait vraiment beaucoup de gens. C'était présenté comme... il y a une détente politique en Tchécoslovaquie, donc on voit très bien que Štefánik redevient populaire.
D'accord, donc il reprend sa place dans le panthéon des grands hommes. En 1993, c'est la séparation tchécoslovaque. Est-ce qu'il y a une séparation Štefánik entre les Slovaques et les Tchèques qui finalement, jusqu'en 1993, partageaient ensemble un personnage historique important pour l'identité nationale?
Štefánik, en Slovaquie, il est perçu comme l'un des plus importants héros national slovaques, tandis que dans le pays tchèque, il est perçu comme quelqu'un qui est important, mais il est loin d'être le héros. On ne peut pas le comparer à Masaryk ou d'autres personnes comme ça. Mais ça jouait, à mon avis, un rôle important, parce que, par exemple, en 1990, une loi disant que Štefánik a fait beaucoup pour la nation tchécoslovaque a été votée. Et à mon avis, ici, Štefánik a été un peu utilisé pour renforcer l'unité de la Tchécoslovaquie, pour montrer que c'était quelqu'un qui luttait pour la Tchécoslovaquie, donc un peu pour affaiblir des tendances séparatistes slovaques. Et donc, ouais, il était utilisé, à mon avis, comme ça, dans ce sens. Mais il a été aussi utilisé de l'autre sens, comme il était présenté comme le victime du complot tchèque.
Alors, on le voit bien, en vous écoutant, que le succès de Štefánik lui est posthume, et surtout qu'il est présent dans les pays tchèques et principalement dans la Slovaquie. Pourtant, il a vécu plusieurs années en France. Est-ce qu'en France, c'est un personnage qui est connu aujourd'hui ?
Par un Français moyen, pas du tout. Mais dans le cercle qui ont des contacts avec l'Europe centrale, il est bien connu, il est même apprécié. C'est un grand symbole des relations franco-slovaques. Et même dans le milieu militaire, à mon avis, il est bien perçu. Avec la coopération du service historique de la défense, j'étais l'un des auteurs d'un livre qui publiait des documents des archives militaires françaises. Puis, en fait, c'est aussi SCPAD qui...
C'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est ?
En fait, ce sont des militaires qui gèrent des archives visuelles et qui font à la fois des films. Donc ils ont fait un film sur Štefánik qui s'appelait Štefánik incroyable destin. Donc on voit que dans certains milieux, Štefánik est bien connu et même apprécié.
Michal Kshinyan, je vous remercie. Je rappelle à nos éditeurs que vous venez de soutenir une thèse intitulée Štefánik, essai biographique. Vous êtes actuellement chercheur à l'Académie des sciences slovaque et au CEFRES à Prague.
Voilà, c'était donc l'historien Michal Kshinyan dans Chapitre de l'Histoire. Et c'est ainsi que se termine le programme de Radio Prague en langue française et il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková.